Afrique, les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. Épidémie de coronavirus en Iran, l'un des pays les plus touchés par l'épidémie de pneumonie virale après la Chine, d'où est parti le virus. Le vice-ministre iranien de la santé, Iraj Arichi, a été infecté par le nouveau coronavirus. C'est ce qu'a annoncé sur Twitter ce mardi le conseiller média du ministère de la Santé, Ali Reza Vahabzadeh. Le test sur M. Arichi, vice-ministre de la Santé, qui était sur les lignes de front face au coronavirus, s'est révélé positif, a souligné ce conseiller. Au cours d'une conférence de presse lundi avec le porte-parole du gouvernement Ali Rabi, le vice-ministre de la Santé, Iraj Arichi, a toussé plusieurs fois et paraissait transpirer à profusion. Le coronavirus progresse par ailleurs en Europe. En Croatie, le Premier ministre Andrej Plenković a annoncé ce mardi un premier cas du nouveau coronavirus dans son pays, le premier dans les Balkans. Il est confirmé qu'un premier patient a été infecté par le coronavirus et il se trouve à Zagreb, à l'hôpital des maladies infectieuses, a souligné le chef du gouvernement en précisant qu'il s'agit d'un homme jeune avec des symptômes légers dont l'état de santé est pour le moment bon. En Italie, pays très affecté par la maladie, de nouvelles régions italiennes, la Toscane et la Sicile, sont maintenant affectées par le coronavirus, a annoncé ce mardi la protection civile en faisant état d'un nouveau bilan total de 283 cas dans le pays. De nouveaux cas ont été enregistrés à Florence et à Pistoia en Toscane et un cas dans le sud de la Sicile. Deux mois après l'apparition du nouveau coronavirus dans le centre de la Chine, l'épidémie s'intensifie donc à travers le globe. Mais pour le moment, aucun cas n'a été diagnostiqué en Afrique. Pourquoi et comment le continent a-t-il réussi à se protéger jusqu'ici? John Lindon a joint le responsable du programme d'intervention d'urgence du bureau régional de l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé pour l'Afrique, à Brazzaville, le docteur Michel Yao.
L'Afrique reste à haut risque. Et donc, le scénario d'avoir un cas reste probable. Et c'est d'ailleurs ce qui justifie la nécessité d'avoir un plan de préparation avec les différentes composantes. Donc, on pourrait dire que c'est juste par chance ou par coïncidence qu'il n'y a pas eu de cas, mais le risque reste élevé.
Quels sont les signes qui permettent de connaître que quelqu'un est atteint ou risque le coronavirus?
Il s'agit de quelqu'un qui provient d'une zone contaminée par le virus et qui a des symptômes qui ressemblent aux symptômes de la grippe ordinaire. Donc, une personne qui éternue, tousse, mais aussi selon les informations qu'on a eues sur le cas actuel en Chine, une personne qui pourrait aussi manifester la forme sévère avec une détresse respiratoire qui exige une certaine réanimation. Mais on met beaucoup plus l'accent sur des personnes qui proviendraient de zones déjà contaminées.
Et quelles sont concrètement les mesures que vous prenez pour éviter à l'Afrique d'être contaminée?
Ce sont des mesures de prévention, de détection rapide, d'isolement et de prise en charge de cas. Comme je dis, le risque d'avoir des cas est élevé et difficile à prévenir. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est s'assurer qu'on ait un mécanisme qui puisse permettre une détection précoce et une prise en charge efficace pour éviter une contamination majeure au sein de la population. Donc ce sont des mesures de surveillance, de détection au point d'entrée, des mesures d'isolement et de prise en charge, des mesures de formation pour éviter une contamination du personnel, c'est-à-dire l'utilisation des équipements de protection, mais surtout aussi la sensibilisation et l'éducation des populations à reconnaître les signes, surtout des personnes qui auraient un historique de voyage dans les pays déjà contaminés.
Est-ce que vous avez le sentiment que ces mesures que vous évoquez sont appliquées?
Ces mesures ont été recommandées au pays pour certains en cours de finalisation, pour d'autres déjà réalisées. L'action la plus urgente, c'est vraiment le mécanisme de détection et aussi de confirmation que sont les laboratoires. Il y a un progrès qui a été réalisé. Nous en étions à 2 laboratoires il y a 2 semaines. Au moment où je vous parle, il y a 28 pays sur les 47 que notre bureau couvre qui ont déjà ce système en place.
Michel Yao, responsable du programme d'intervention d'urgence au bureau régional de l'OMS pour l'Afrique à Brazzaville.
VOA Afrique en direct de Washington.
Conflit en Libye, deux soldats turcs ont été tués en Libye où Ankara a déployé des militaires pour soutenir le gouvernement de Tripoli. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, faisant pour la première fois état de pertes militaires dans ce pays. La Turquie a dépêché sur le terrain des militaires turcs ces dernières semaines pour aider le GNA, le gouvernement libyen d'union nationale de Fayez al-Sarraj, face à une offensive de l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui est soutenu par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Égypte. Élection au Togo, l'opposition continue de contester la victoire du président Fornia Singbe, élu pour un quatrième mandat dès le premier tour du scrutin présidentiel de samedi. Hier, l'opposant Akbeyome Kodjo a appelé le peuple togolais à réclamer la vérité des urnes. Les précisions de notre envoyé spécial à Lomé, Irénée Armand Ombo.
Akbeyome Kodjo n'en démord pas malgré la publication de la Commission électorale nationale indépendante du vainqueur du scrutin du 22 février. Après s'être autoproclamé dimanche élu du Togo, hier encore il a déclaré être le gagnant de la présidentielle de samedi dernier.
En conséquence, les acteurs de la dynamique Monseigneur Kodjo rejettent catégoriquement les chiffres communiqués par CENI et interpellent les missions d'observation électorale et la communauté internationale a fait qu'elle prenne des dispositions idoines.
L'ancien Premier ministre s'exprimant au nom du collectif des acteurs de la dynamique, Monseigneur Kodjo, a appelé le peuple togolais à réclamer la vérité des urnes.
Il lance un appel vibrant aux populations togolaises à se mobiliser pour manifester leur désapprobation face à cette mascarade électorale et à défendre le suffrage.
Mais pour l'heure, son appel à manifester n'a pas été suivi. Dans un communiqué, l'ANC de Jean-Pierre Fabre a dénoncé au même titre que le collectif de la dynamique Monseigneur Kodjo une fraude massive lors du scrutin de samedi. Irénée Herman Ngbo, Lomé, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, les magistrats ont suspendu hier leur grève entamée le 10 février pour exiger de meilleures conditions de travail. Les détails avec Eki Abadou.
Cette suspension de la grève est un acte de bonne foi pour permettre la poursuite des négociations, a déclaré Edmond Issofa, président du syndicat national des magistrats. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire, d'un côté réformer la justice pour lutter contre la corruption et de l'autre laisser les magistrats vivre dans la précarité, a-t-il ajouté, indiquant que le travail reprendrait dès aujourd'hui mardi dans les tribunaux. En juillet, le Conseil supérieur de la magistrature avait transmis au gouvernement des propositions de salaire et avantages à payer à chaque magistrat congolais. La justice congolaise est souvent accusée d'être lente et corrompue, alors que le président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption une de ses priorités. En 2018, Joseph Kabila avait révoqué 250 magistrats accusés de corruption. La RDC occupe la 168e place sur 180 pays dans l'indice de perception de la corruption établi par Transparency International dans son dernier rapport publié à la fin janvier.
Et puis au Burundi voisin, selon les autorités, au moins 13 bandits armés et un policier ont été tués dimanche dans la province de Bujumbura rural lors d'affrontements avec les forces de sécurité appuyées par des jeunes du parti au pouvoir. Les précisions d'Eddie Sango.
Selon Jean-Pierre Nyongabo, administrateur de la commune de Mutambu, un groupe de bandits armés, un terme pour désigner les rebelles, est entré dans sa commune où la population et les forces de l'ordre les attendaient de pied ferme. Selon lui, les combats ont eu lieu pendant 2 heures sur la colline de Nyankere, à environ 30 km de Bujumbura, précisant que 13 bandits armés ont été tués et l'un d'eux a été arrêté. Il a aussi fait état d'opérations de ratissage pour retrouver les restes de la bande. Deux témoins ont confirmé les affrontements en expliquant que les Imburanera Kure, la ligue de jeunes du parti au pouvoir, dont certains armés des Kalachnikov, étaient en première ligne aux côtés de l'armée et de la police. L'annonce en 2015 de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat avait plongé le pays dans un cycle de violence.
Et pour terminer, en Égypte, décès ce mardi de l'ex-président Hosni Moubarak, contraint à la démission après le soulèvement populaire de 2011. L'ancien leader a dirigé son pays pendant 3 décennies et il est mort à l'âge de 91 ans à l'hôpital militaire Galaa au Caire. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.